Robert Blondin ici, bienvenue à l'aventure. Je l'ai connue en publicité il y a bien des années. Elle s'appelle toujours du même nom, Céline Carbonneau. Super sympa, on s'était très bien entendu sur des plateaux d'enregistrement. Et elle a complètement changé sa façon de faire, sa façon de gagner sa vie en suivant des passions. Mais on va revenir d'abord à la publicité. On parlait un peu de ta carrière, parce qu'avant de faire ce que... Moi, je vais en parler tout de suite, mais on va garder le punch. Mais avant, tu as fait de la publicité. Mais
ouais.
Tu étais au cœur de la pub, toi, là.
Oui.
Avec toutes les difficultés, les tendances, les péchés et les grâces de la pub, là.
Ou presque.
As-tu aimé ça?
Oui. J'ai commencé en 80 en publicité. J'étais commis dactylo dans un département média. Mais avant tout ça, j'ai travaillé 3 mois chez Studio Marco comme coordonnatrice. Et j'ai perdu mon emploi parce que j'étais pas assez mature. Puis, j'imagine que je fitais pas avec le groupe. J'avais beau faire toutes les heures que je faisais le travail et tout, mais des fois, il y a des gens qui te changent de place. Alors, je me suis retrouvée quand même en publicité. Je me suis trouvé une job parce que dans la famille des Carbonneau, ben nous, il y a personne qui reste à pas travailler. Ça fait pas, on a toujours travaillé, tout le monde. Il n'y a pas grand monde qui a été sur le BS ou même sur l'assurance chômage. Puis, je me suis trouvé une job comme commis dactylo. J'ai pris une drop de salaire, puis j'ai travaillé dans un département média chez Foster à l'époque. Et j'ai fait un petit bout de chemin de 5 ans là. Après ça, je suis allée chez Cossette au service clientèle. J'ai été coordonnatrice aussi, en fait, chez Foster à la création. Donc, j'ai touché tous les départements en publicité. Et chez Cossette, à un moment donné, M. Dufort m'avait rentré dans son bureau puis m'avait dit, t'as le choix. Ou tu retournes au service conseil comme coordonnatrice, ou tu recommences puis tu t'en vas en production. Bien là, j'ai pris la production puis c'est là que j'ai commencé.
Tu faisais quoi en production?
Bien, quand j'ai commencé, j'étais coordonnatrice. J'ai appris sur le tas parce qu'il faut savoir qu'il y a la place en publicité pour apprendre sur le tas. En tout cas, je fais partie de cette école-là. Ça veut dire ça que tu travailles des longues heures, tu travailles de jour, de nuit, de week-end. Mais quand tu veux apprendre un métier, parce que je considère ça comme un métier, être producteur, t'es prêt à tout. Alors, je suis même à un moment donné, en 88, allée chercher un certificat en publicité à l'Université de Montréal. J'ai fait ça de soir, puis je l'ai fait en 1 an et demi parce que je voulais absolument un papier dedans mon CV parce que j'avais rien. J'avais un deck en or plastique, c'est à peu près tout. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui travaillait à la création chez Cossette qui est venu me chercher pour travailler dans une petite agence. Et c'est là que j'ai commencé officiellement producteur.
Qu'est-ce que ça fait, une productrice chez Cossette?
Un producteur chez Cossette, puis dans bien des agences, c'est comme un peu un chef d'orchestre. Par contre, je ne sais pas si le chef d'orchestre est aussi à l'écoute, mais j'imagine, qui est à l'écoute de chaque personne avec qui il travaille, qui va aider les gens, qui va trouver des solutions. Puis c'est comme, tu chapeautes des budgets, tu fais des castings de voix, tu es à l'écoute des clients, du service clientèle, la création, des comédiens, des musiciens. Tu es au centre de tout ça. Et ton but, c'est de mener un projet à terme en faisant plaisir à tout le monde.
Le client, patron, tout le monde.
Oui. Service clientèle, c'est pas facile. J'ai déjà travaillé dans ce département-là. Puis je m'étais dit, non, moi, je voulais être plus au centre de tout le monde parce que, en fait, tu as des défis à tous les jours, que ça soit de trouver... Je veux dire, ton directeur de création peut arriver puis dire, OK, appelle-moi tel comédien qui est à Los Angeles, puis... Faut que tu rejoignes le gérant, l'agent ou quelqu'un.
Ouais, puis je le veux demain matin à 9h, là.
Presque.
Dans le genre, là.
Dans le genre. Fait que c'est comme... On a ces petits défis-là, des fois. Bien, évidemment, il y a toujours les questions de budget. Il y a les négociations et tout ça. C'est toi qui as les règnes du budget qui va gérer tout. Fait que c'est sûr que quand l'équipe de création veut proposer au client son concept, sa campagne, il veut un réalisateur derrière un message télé ou autant comme avec toi, c'était une campagne radio qu'on a fait pour Bell à la manière de... avec Lily Côté, puis c'est comme... C'est une des plus belles campagnes radio que j'ai fait. Je me suis jamais autant amusée sur une campagne radio. Les défis de rejoindre les comédiens, la liste de comédiens que tu me donnais... Après ça, on avait Philippe Leduc qui faisait au niveau de la musique et tout. Je veux dire, c'est... Moi qui n'ai pas nécessairement une... Parce que je fais trop de choses, je ne suis pas une littéraire, je ne suis pas une fille qui lit... énormément. Je suis au courant un peu de tout, mais cette campagne-là m'a permis de connaître des auteurs, de cette sensibilité de plein d'auteurs que je connaissais pas, puis qu'on est allé chercher à travers la publicité. Fait que c'est comme...
C'était un beau souvenir pour moi aussi.
Oui, c'était vraiment une belle campagne.
Faut dire qu'on était chercher Guy Moffett, c'était pas évident à l'époque.
Ouais, on a fait des choses.
Mais ce milieu de la publicité que tu as connu, est-ce que c'est aussi... aussi coupe-gorge, aussi un milieu de compétition, pour ne pas dire de drogue qu'on le pense de l'extérieur?
Bien, moi, de mon côté, j'étais peut-être pas autant... Non, les producteurs, je pense qu'on n'est pas autant dans cette situation-là. C'est peut-être plus les créatifs qui sont plus au niveau de la... ce que je dirais, la compétition. En fait, je suis pas certaine si c'est juste une question de compétition que de challenge qui va... qui va sortir le prochain Monsieur B ou qui va sortir le prochain logo de McDo?
Parce que les enjeux sont énormes. Quand une campagne fonctionne bien et qu'on l'a conçue, il y a des sous.
Oui, il y a des sous pour l'agence. Oui. Le créatif, c'est une autre chose. Lui, ça lui fait un beau CV, ça lui fait... je veux dire, après ça, il peut aller n'importe où s'il veut, ou on vient le chercher. Il va même pas, il a même pas le temps de sortir. C'est lui qui se fait repêcher. Mais, comment je pourrais dire ça, les producteurs, est-ce que la compétition... On travaille pas ensemble, chaque producteur est un peu... on fait nos trucs, comme on se connaît pas mal toutes, mais on n'a jamais vraiment travaillé ensemble, à moins que c'est quelqu'un qui nous a engagés dans une agence, parce que moi, j'ai été travailleur autonome, donc j'ai été repêchée par des agences qui avaient un besoin de producteurs, donc...
Et tu as été en relation par ce métier avec des vedettes, plein de grandes vedettes, des plus petites, mais des grandes vedettes.
Ouais.
C'était quoi ton rapport à ces gens? Parce qu'aujourd'hui, c'est une religion d'être vedette, être une star, ça devient une religion importante. Comment t'as dealé avec les vedettes?
Telles quelles. Je pense qu'il faut les prendre telles quelles. Ils sont pas à part des autres, malgré ce qu'on peut dire des fois, qu'ils ont leurs caprices et tout, mais je pense que n'importe qui a ses caprices de vouloir quelque chose ou d'une petite attention. Oui, j'ai eu des trucs où il fallait fournir des petits plateaux de fruits avec une sorte de yogourt ou une petite affaire, tu sais, ou, ben bon, je ne nommerai pas, mais je me rappelle d'avoir été en studio un matin puis qu'il y avait de l'alcool en studio, mais c'était pas... C'était spécial. Non, il n'y a pas de... Moi, là, je suis une groupie, hein. Je suis fière de travailler avec ces gens-là. Ils travaillent super fort. Puis ceux qu'on dit les grandes vedettes, bien, ils l'ont pas volé. Ils ont travaillé, puis ils ont eu aussi une question de timing, j'imagine, dans la vie. Mais que ça soit au théâtre, au cinéma ou en rédaction, ou ils ont toutes quelque chose de différent. Je vais en reparler tantôt dans mon autre vie que j'ai maintenant, mais je vais faire le lien avec avec certaines choses.
Bon, parce qu'à un moment donné, tu as voulu faire autre chose que de la pub, et c'est là qu'on arrive.
Ouais, en fait, j'ai toujours eu des projets. Toute ma vie, j'ai eu des projets, que ce soit faire des chandelles, du tricot, des bijoux. Oui, j'ai eu une passe bijoux. Je suis une fille manuelle. Puis toute ma vie, j'étais là, je me disais, je vais faire telle affaire. En fait, j'aurais voulu être artiste quand j'étais plus jeune. C'est pour ça que j'ai fait mon deck en arts plastiques. Mais j'aurais voulu enseigner les arts plastiques. Mais là, j'ai commencé à travailler autonome en publicité. Fait que bac en arts plastiques que j'avais été accepté de soir à l'UQAM, puis qui accepte juste 50 personnes, venait de prendre le bord. parce qu'il a fallu que je fasse un choix, puis ça se faisait pas les deux en même temps. C'est énormément de travail faire un bac en plastique. Puis au fil des années, j'ai continué quand même à faire plein de petites affaires. Puis à un moment donné, il y a comme une ligne qui s'est tracée, puis je me suis retrouvée en voyage. Puis là, je voyageais, mais à chaque fois que je voyageais, je prenais un cours de cuisine en pâtisserie, parce que j'ai toujours été plus attirée par la pâtisserie. Puis je me disais, ça serait cool un jour d'avoir un café ou une boutique X. Puis à un moment donné, je suis allée à une conférence de Michel Blanc par rapport aux médias sociaux. Puis je savais pas trop si je voulais avoir un compte Twitter. Je vais-tu me mettre sur Twitter? J'étais déjà sur Facebook. Instagram n'était pas tout à fait là encore. Puis je suis allée à cette conférence-là, puis je dis « OK, c'est bon ». Fait que je suis revenue à la maison un soir d'été, il était 2h du matin, assis sa terrasse, faisait super chaud, puis je travaillais pas le lendemain matin, fait que je pouvais comme faire plein de médias sociaux sa terrasse. Et c'est là qu'est né Nougat et Nectarine.
Fait que Nougat et Nectarine, c'est ta boutique. Alors maintenant, tu fais presque plus de pub ou plus du tout?
Officiellement, presque plus depuis février de cette année.
Sauf pour te retrouver comme pour faire du travail de traiteur sur des plateaux.
Ouais. Et faire des capsules qui s'en viennent, que j'attends des trucs. Là. J'ai fait un truc avec quelqu'un l'autre fois pour un pilote d'émission télé. Et si ce projet-là fonctionne, mais je suis la première capsule. Ça va être super le fun. Vraiment all the way, en face de la caméra et tout. Mais c'est pas moi la vedette. Je veux dire, il y a une animatrice, puis moi, je suis l'invitée. Mais c'est quand même, je suis la première capsule. Puis c'est un beau projet.
Là, ta boutique est sur Saint-Laurent, hein, juste avant Sherbrooke, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Parle-moi de ça un peu. Parce que c'est quoi, ce boutique-là?
C'est un
projet...
Moi,
je t'ai vu là-dedans, dans ta boutique, t'avais l'air à la fois extrêmement préoccupée que ça fonctionne, parce que c'est pas évident de lancer ça, puis en même temps, extrêmement heureuse d'avoir réussi ça.
Ouais, c'est beaucoup partir un commerce. J'ai fait un plan d'affaires assez béton. Je suis en bas de la rue Sherbrooke, juste à côté de l'ancien musée Juste pour rire, qui a été acheté par le Cirque Les Sept Doigts de la Main. Ce projet-là était déjà dedans mon plan d'affaires quand j'ai travaillé là-dessus. Puis, ça devait prendre à peu près une année de construction. Malheureusement, ça a pris 2 ans et demi. En fait, le trottoir était barré à ma porte de boutique, juste à la porte de la boutique.
Ça,
puis 2 ans et demi de trottoir barré, il a été ouvert l'année dernière, en avril 2018. J'ai ouvert en juin 2015. Ils ont commencé les travaux en novembre 2015. Puis le trottoir a été ouvert en avril 2018. C'est un projet magnifique. En fait, le quartier, ce qui m'attire dans ce quartier-là, parce que c'était pas dans ce quartier-là que je devais m'installer. Moi, je voulais m'installer comme à Saint-Henri, à Pointe-Saint-Charles. Et à un moment donné, j'ai regardé un peu plus loin dans Montréal, parce qu'il faut penser que quand on travaille beaucoup, tu veux pas te taper une heure de route. Puis tu vas être capable d'être à ton commerce rapidement, autant la nuit que le jour. En pâtisserie, des fois, ça arrive que c'est la nuit. Et je me suis retrouvée dans ce quartier-là, je tombe en amour avec une porte. C'est la porte, en fait, c'est la façade de l'ancienne brasserie Acres, qui date des années 1800-quelques. C'est une magnifique bâtisse qui a été convertie avec des condos, donc ça s'appelle le Saint-Dominique, qui est sur la rue Saint-Dominique, et les condos traversent jusqu'à Saint-Laurent. Et ils ont gardé le premier étage de Saint-Laurent pour en faire un condo commercial.
Donc, c'est là que tu es installé.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que tu fais exactement? Décris-nous un peu.
Fais-nous
saliver.
Alors, pour une boutique sucrée, à la base, c'est une boutique sucrée. Pourquoi une boutique sucrée? Bien, d'un, le nom est plus moderne que pâtisserie. Et on ne vend pas que de la pâtisserie. Donc, on vend de la confiserie. On vend des gâteaux. Oui, on vend de la pâtisserie, des desserts individuels. On conçoit des gâteaux 3D. On fait des gâteaux de mariage. On fonctionne beaucoup par les médias sociaux de nos jours. Puis c'est là que c'est important. Moi, Google, pour la boutique, c'est super important. On a souvent des gâteaux de mariage qui arrivent par Google. Bien, il y a beaucoup de monde qui viennent se marier à Montréal. Évidemment, ils ont besoin de gâteaux. Fait que j'ai livré des gâteaux sur des bateaux dans marine, dans le Vieux-Port. J'ai livré des gâteaux dans des restos à Montréal. J'ai livré partout, même à l'année dernière, là, à Vaudreuil.
Eh bien, quelle question de spécial, des gâteaux de noces?
Bien, j'imagine que les gens, ils cherchent, puis on sort, on a des bonnes critiques, puis on sort dans les premiers.
Parce qu'on
sur
peut
Google.
Les voir sur Internet, c'est
J'en
ça?
ai mis quelques. Ouais, on a mis quelques photos sur Google. On a une page d'affaires sur Google. Puis, j'imagine, à cause des critiques qu'on a eues des gens et tout, bien, on a des 5 étoiles et on se retrouve souvent dans les premiers. Question
quand
spéciale.
Quand tu dis on, là, vous êtes plusieurs là-dedans?
Non, on veut dire la boutique. Ça, je suis tout seul là-dedans.
Ça, c'est toi puis tes spatules, là.
Oui. Je suis tout seul dans mon projet. C'est pas un projet qui a été planifié sur 10 ans. Là. C'est un projet qui a été... OK, j'ai eu 52 ans, puis j'ai dit, il faut que je suive un cours pour faire un plan d'affaires. Puis c'est là que ça va se confirmer si je vais de l'avant avec un projet X. Et c'est comme ça que j'ai décidé de partir le tout.
Mais comment tu bâtis? T'ouvres, là, bon, t'as ta passion, tu te fais tes recettes de gâteaux et tout ça.
Bien, c'est comment? Des recettes que j'ai depuis toute petite que je fais. Il y en a quelques-unes que j'ai testées. Les gens, quand j'étais travailleur autonome, certaines personnes pourront... Ah oui, moi, j'ai fait partie de ceux-là qui ont goûté à son popcorn, j'ai goûté à ses cupcakes, j'ai goûté à ci, à ça, à son caramel, à sa tartinade de chocolat. J'amenais des trucs au bureau.
Ça fait longtemps que tu joues dans le sucre, hein?
Oui, oui.
C'est quoi tes grands produits, le fun, là, qu'on peut pas passer à côté, là?
Bien, en fait, il y a des produits différents pour tous. Là, présentement, on a une petite mode depuis un bout de temps. On fait le number cake, qu'on appelle un gâteau chiffre. C'est un gâteau qui est fait en forme de chiffre.
Pour un anniversaire, ça.
Oui, exactement. Un anniversaire ou même une retraite ou... différents trucs comme ça. On fait deux chiffres ou 50 ans, mettons, on ferait un 50 ans. C'est un biscuit avec une crème à la base. On fait des genres de petits pouettes, là, des petits pouettes. Puis on met un autre biscuit dessus, puis encore des petits pouettes. On met des macarons, des fleurs comestibles et tout. C'est super joli. Et on met ça dans une boîte cadeau rigide avec un ruban et on le présente comme ça à la fête. Fait que ça a un gros hit. Finalement, les gens, quand ils me rappellent pour commander ce gâteau-là, ils le prénomment « Wow », le gâteau « Wow ». Parce qu'effectivement, quand ils ouvrent la boîte et présentent le gâteau à la personne ou que la personne déballe elle-même la boîte, c'est « Wow » qui sent.
Est-ce que tu fais encore des cupcakes?
Oui. On a toujours des cupcakes parce que cupcake veut dire, même ces petits gâteaux, les gens, il y a des gens qui disent « Ah oui, les cupcakes, c'est pas intéressant », mais les cupcakes, c'est intéressant quand t'as des groupes puis t'as des gens qui veulent goûter à différents trucs. Tu t'envoies à une fête, tu n'as pas le temps de couper le gâteau et tout ça, fait que les gens vont choisir plein de petits cupcakes. Tous nos cupcakes sont déclinables en gâteau de famille, qu'on appelle. Donc, si quelqu'un veut commander un gâteau au sucre à la crème, bien...
Donne-moi quelques déclinaisons de ces petits gâteaux-là ou des gâteaux de famille.
Bien, le gâteau, entre autres, le gâteau, caramel, sucre à la crème, c'est un petit gâteau vanille avec une crème vanille. On met un crumble de sucre à la crème puis un petit sirop de caramel dessus. Le s'mores, qu'on appelle, ce qui veut dire « some more », qui est un gâteau de scout, si je ne me trompe pas, un gâteau, mais un dessert de scout en camping, deux biscuits Graham, une tablette de chocolat Hershey, la guimauve que vous avez fait brûler sur le barbu, le
complètement
le feu
décadent,
de camp.
Ça.
Bon, ça, c'est le truc, mais en petit gâteau, tu as un gâteau au chocolat avec une crème vanille à l'intérieur, un crémage au chocolat, des biscuits Graham émiettés et une guimauve brûlée à la torche sur le dessus.
Céline Carbonneau, aujourd'hui, avec nous. Carrière de publicité, en publicité, et switch, on change et on devient pâtissière. C'est presque pas le bon mot pour toi, pâtissière. Sucrière. je ne sais pas, mais n'importe quoi qui a du sucre dedans. Non?
Non.
Ben oui. Corrige-moi.
Oui. J'essaie de trouver un mot. Mais comme ce matin, j'étais sur un plateau de tournage, puis un technicien qui m'a reconnu parce que j'ai servi un repas la semaine dernière sur un autre plateau de tournage. Puis il m'a dit, t'es un peu trop tôt pour le traiteur. Fait que là, je l'ai regardé, puis j'ai dit, ah non, je viens pas pour le traiteur. Aujourd'hui, j'ai le chapeau styliste culinaire sucré. Alors?
Ça, c'est pour dessiner l'apparence d'un gâteau dans une pub, par exemple.
Bien, des fois, je le conçois, des fois, je le design, mais des fois, on m'envoie des photos pour me demander, peux-tu me faire ça? J'ai besoin de ce type de gâteau-là pour un tournage.
Parle-moi un peu de tes origines. De quel quartier tu viens à Montréal?
Je suis née à l'hôpital de Lachine, mais je suis de Ville-la-Salle.
Donc, c'est l'ouest de la ville?
L'ouest de la ville, oui.
Une grosse famille?
On est deux.
Deux.
Deux filles.
Et les parents ont travaillé? Ils travaillaient dans quoi?
Mes parents, c'est des ouvriers. Ma mère a travaillé. Elle a fait des bas de nylon. Ça a été comme sa profession. Là. Elle se faisait même appeler par certaines compagnies pour faire des réparations de bas de nylon le soir à la maison. Mon père a travaillé dans une shop de métal. Il a fait partie d'Expo 67, les tourniquets et tout ça. Ils ont leurs initiales à plusieurs endroits, là. Il a fait ça, puis les deux se sont retrouvés pour Steinberg. En fait, ma mère a travaillé Miracle Mart et mon père aussi a travaillé Miracle Mart. Fait que les deux ont... Mon père a eu un commerce dans les années 80 par après. Ça a fait... Ils ont mis les clés dans la porte du jour au lendemain, quasiment du jour au lendemain à cause d'une fraude X. Je n'aimerais pas le commerce. Et il est reparti à zéro, puis c'est parti un dépanneur. Grâce à ma mère, il avait fait un genre de incorporation, séparation de biens, machin chouette. Donc, ils n'ont pas perdu toute la maison, les voitures et tout ça. Donc, il est reparti à zéro, puis il a acheté un genre de local là, avec qui était une vieille épicerie des années 60, puis il a tout converti ça en dépanneur. Il a eu ça peut-être 8-10 ans, puis à un moment donné, il s'est retrouvé à travailler chez Sears à Ville-la-Salle. Ma mère en comptabilité.
Donc, des carrières variées.
Oui. Ils ont toujours travaillé, toujours donné le nécessaire aux enfants. Fallait...
Ta sœur est plus jeune, plus vieille que toi?
Trois ans plus jeune. Elle était venue travailler à un moment donné chez Cossette, puis elle a décidé qu'elle voulait avoir un enfant à un moment donné. Fait qu'elle a pris un congé, elle est allée faire des cours le soir, elle a eu des... elle a fait un... Comment on appelle ça? Donc, un CPE. Donc, elle est... comment on appelle ça? Pas gardienne, mais en milieu familial. Donc, elle fait partie d'un CPE à Longueuil. Ça fait des années qu'elle fait ça. Elle adore sa job. Elle a suivi plein de cours pour être proche des enfants et finalement, elle n'est jamais revenue en publicité.
On peut dire une enfance pour une famille heureuse?
Oui. Ouais.
En dépit des aléas de travail des parents qui pouvaient changer.
Oui. Oh oui, nous, c'était les parties à Noël et tout ça. Là. Je dis c'était parce que là, on est tout le monde, toutes les familles au Québec, des fois, on est souvent ensemble quand les enfants sont jeunes, puis à un moment donné, tout le monde grandit, tout le monde fait leur vie, tout le monde change un peu de province ou de ville et tout. Donc, ça s'éparpille, mais des fois, on reste en contact un peu.
C'est quoi tes beaux souvenirs d'enfance à Ville-la-Salle?
Ouais, c'était les parties de jour de l'an chez mes parents. La famille venait, mais les cousins, on se rencontrait. Puis Noël a toujours été important dans la famille. En fait, toutes les fêtes sont importantes dans la famille. On se donne une raison pour se voir quand il y a des fêtes sans être nécessairement... bon, oui, on va à l'église, mes parents vont à l'église et tout, mais je veux dire... On célèbre pas juste Noël ou c'est la fête, c'est la famille qu'on célèbre à chaque fois qu'il y a des occasions qu'on peut prendre.
Est-ce qu'il y a encore des tantes, des oncles qui sont là?
Oui.
Les cousins, cousines aussi?
Oui. Tout le monde, on a perdu quelques tantes ou oncles, mais pas mal.
Avais-tu à l'école des amitiés faciles? Parce que je t'ai connu sur des plateaux de tournage, j'ai plutôt de bonne humeur et facilement on polarise autour de toi. Est-ce que tu étais comme ça, jeune aussi?
Oui et non. J'ai eu des crises quand j'étais jeune, moi. Je passais à travers bien des affaires à mon adolescence.
Comme?
Ben, genre, me tenir avec des gens que j'avais pas d'affaires à maintenir, dans le Vieux-Montréal, fumer du pot, essayer des affaires, être témoin de des affaires. Mais, ouais, non, j'ai eu des périodes grano, des périodes disco, aller dans un bar, pas de carte. Parce que dans le temps, dans les années 75, à peu près, le Vieux-Montréal, on sortait d'un brasserie puis tout ça. Puis là, le téléphone n'existait pas dans ce temps-là, n'est-ce pas, les cellulaires? Alors là, tu avais quelqu'un qui appelait dans les brasseries, les bars, puis qui disait « OK, il y a une descente à telle place, je pense qu'ils s'en viennent vers votre côté. » Fait que là, tout le monde se le faisait dire, puis on changeait de place. Fait que des petites affaires comme ça. Mais j'ai passé plein d'affaires, puis je pense que encore là, si mes parents n'avaient pas été là, je serais pas où je suis aujourd'hui.
Donc, ils t'ont pas vraiment puni ou ils t'ont guidé?
Ben oui, exactement. Guidé. J'ai été chicanée parce qu'on était quand même... Disons que je n'ai pas sorti pendant un bout
limites,
de temps.
Là? Oui,
exactement. Parce que je me disais toujours, ah oui, mais il faut que je rentre à 10 heures le soir, mais tant qu'à rentrer tard, puis de me faire chicaner, tout se met de rentrer tard. Donc, des fois, je rentrais à 2 heures du matin, mais quand ils savent pas où tu es... Ouais, des petites affaires comme ça, là.
Comment ont été tes relations avec les amis ou relations, les découvertes des relations amoureuses? Comment ça s'est passé pour toi?
Les relations amoureuses?
Ouais.
Ben, j'en ai eu quelques-unes. Puis à un moment donné, j'ai eu des périodes vives. OK, je vais avoir un amant à la place d'avoir quelqu'un de... steady, comme on dit. Mm-hmm. Puis je me suis dit un jour, ben quand mon projet a commencé, il y a quelques années, je me suis dit, ah ben si je ne suis pas pour être en amour, je vais m'amuser puis je vais être en affaires.
Et tu as gardé cette philosophie-là.
Ouais. Puis c'est pas mal là où on en est aujourd'hui. Mes employés, des fois, me passent des commentaires. Mais c'est un choix. C'est je suis pas plus malheureuse.
T'es une fille de dessert, de toute façon.
Ben non, alors, non.
Dans là-dedans, comme dans d'autres choses.
Je préfère gâter les autres.
Oh, mon Dieu. Cette vie familiale, quand tu étais jeune, as-tu connu des conflits à l'école avec entre filles? Ça s'est-tu passé dans ton cas?
C'est parce que dans mon adolescence, j'avais comme un peu une... double vie. J'étais la petite fille sage à l'école, puis des fois, le soir, c'était comme une autre fille. Mais j'ai pas eu beaucoup de... J'ai pas fait partie, je pense, des filles qui ont gardé contact avec beaucoup de monde. J'en ai dans mes amis présentement, puis c'est parce que j'ai connu leurs frères qui ont fait de la musique, puis c'est... Je savais que c'était le frère d'eux. Je pense entre autres à Joanne Essiam que j'ai connue dans mes années secondaires. Bien, elle, c'est la sœur de Gaétan Essiam. Puis, je veux dire, c'est une grosse famille, les Essiam. La Gaspésie, je ne me trompe pas. Et eux, ils ont resté à Ville-la-Salle et tout. Puis, on s'est connus dans les années, je dirais plus, c'est soit adolescent, soit 16 ans. Mais j'ai comme pas vraiment gardé contact. On a pris des chemins différents. On n'était pas dans les mêmes secteurs au niveau de l'école. Moi, après secondaire, je suis allée au cégep en lettres. Je voulais être journaliste.
Ben, pourquoi pas?
Oui. Je peux rester longtemps, là.
Pourquoi?
Je sais pas. J'ai vécu une autre crise adolescente. Fait que je suis retournée... je suis allée travailler, puis j'ai sorti, bu, puis même quitté la maison sur une crise de... « Ah, tout marche électronique ici. C'est quoi cette affaire-là? On fait plus rien de nos mains. » Imaginez ça, c'était en 78. Ça, c'était la période du lave-vaisselle, le lave-vaisselle, le micro-ondes, puis quand t'avais tout ça,
la maison... Ça, c'était trop pour toi, ça.
Ouais, en tout cas.
Qu'est-ce que tu fréquentais à l'époque comme spectacle, cinéma, théâtre, je sais pas?
À l'époque, de tout. Ah, t'allais voir Kiss... moi, aller voir Offenbach, j'ai fait toutes les shows de la Saint-Jean sur le Mont-Royal. Là, ça a été comme un méga party pendant des années, là, d'aller voir nos Yvon Deschamps, toute cette période-là. Mais j'ai aussi une période Led Zeppelin, puis au niveau de la musique. Au niveau du théâtre, pas beaucoup, c'était plus musical.
Cinéma,
on allait voir tous les films... Là, ça fait très longtemps que je suis allée au cinéma parce que j'ai comme abandonné beaucoup, beaucoup de choses pour le commerce. Je pense que je suis allée au cinéma une fois en 5 ans, alors qu'avant, j'allais quasiment toutes les semaines. Ça a toujours été une passion pour moi, le cinéma. Mais les films québécois, beaucoup, à cette époque-là. Quelques films américains, mais c'était plus québécois dans les années 70. Ben, je prônais plus le Québec.
Te souviens-tu de ce que tu regardais à la télévision quand tu étais enfant?
Ben là, c'est sûr que La Souris Verte, j'ai regardé ça. Bobineau, j'ai regardé Bobineau. Okay. Je les ai toutes regardées, même.
Oui, les téléromans, est-ce que vous regardiez
vous? Oui. Ben là, tu sais, les Cré-Basile, les Symphoriens. Là, plus tard, est venu les Dames de cœur. Il y a eu la cuvée de 80-85, qui je trouve qu'elle était bonne. Là. Je me rappelle pas tous les titres des émissions. Oui. On a eu des périodes où c'était plus fort que d'autres. Ben d'ailleurs, il y a toujours des années où c'est plus fort que d'autres dans les téléromans. Là, je suis un peu off des téléromans aussi. Parce que j'ai coupé l'Internet. J'ai pas de télé, pas d'Internet, pas de téléphone à la maison.
C'est volontaire.
Oui, parce que j'ai besoin d'argent pour ma boutique.
Pour tout investir dans la boutique. Donc, quand tu dis que tu es sérieuse, ça comprend des sacrifices comme ça, là.
Oui. Puis, c'est ma sœur qui fait ma colo, ma nièce, ça coupe mes cheveux. Des fois, ma sœur aussi.
Donc, tout coupé. Tu vis presque pauvrement pour ta boutique?
Oui. C'est un choix. Ouais.
Que tu ne regrettes pas?
Pas pour l'instant. Pas encore, en tout cas. J'essaie tout pour que ça fonctionne.
Est-ce que ça commence à être rentable?
Non, c'est pas rentable. Ça ne l'est pas encore parce que, je suis toute seule dans ce projet-là. Je suis avec la Banque de développement du Canada. Il me reste encore 2 ans, quelques à payer. J'avais pas de quand je dis que j'ai pas planifié ce projet-là, c'est vrai, je l'ai pas planifié le projet. Fait que j'ai pris toutes mes REER, j'ai hypothéqué ma maison, j'ai comme plus d'argent. Tout va dans la boutique, payer mes employés, payer le loyer, payer les affaires. La seule dépense que je fais, je pense, c'est les gâteries à mes chiens puis leur bouffe. Sinon, y a rien. Zéro. Ben, j'achète un magazine ou un livre de recettes. C'est la seule affaire que je vais aller... La semaine passée, le week-end dernier, je me suis payé une traite, là. J'étais allée manger à l'Express. Ça faisait un an que j'étais allée. Puis c'était Noël pour moi. Puis j'ai même pas pris d'alcool avec ça. J'ai pris mon...
Et t'as aucune mélancolie?
Je suis correct. Autant comme les gens, ils me demandent... ben même ma mère, des fois, elle me pose la question... Tu regrettes... C'est quoi? Je comprends pas pourquoi tu es partie de la publicité pour faire ce que tu fais aujourd'hui, mais j'ai dit, c'est une question d'âge. Je veux dire, j'aurais pu... La seule affaire que j'ai le regret de, c'est de pas l'avoir fait ou de pas avoir eu le déclic avant. Mais dans la vie, il y a des choses qui t'arrivent. C'est pas toi qui gères ton métabolisme. Ouais. Il y a des choses qui se pointent dans la vie, une sagesse, un truc. OK, c'est là que tu l'as, le gars. Si on avait tout le gars... cette énergie, ce vouloir de partir un commerce ou une entreprise plus jeune, on ne vivrait pas certaines affaires qu'on vit présentement. Comme ce que je vis présentement, probablement si je l'avais fait un peu plus tôt dans ma vie, il y a certaines choses, parce que j'aurais accès à d'autres affaires. Ce qui arrive, c'est que passé 45 ans, tu n'as pas d'accès à grand-chose. Tu n'as pas de subvention, puis souvent j'écris des commentaires, tu n'as pas de subvention, tu n'as pas de... tu peux pas... T'as pas grand-chose du gouvernement, les bourses, les concours, c'est tout pour du monde en bas de 45 ans. C'est comme si on assume que parce que t'as passé 45 ans, t'as de l'argent. Puis souvent, les gens vont t'étiqueter. Ah oui, t'as un commerce, t'as de l'argent. Si vous saviez, là, depuis février, là, j'ai peut-être mangé 5 fois de la viande. OK, c'est une bonne affaire en soi aussi, là.
Ouais, mais je veux dire... Là. T'as pas peur, avec ces privations-là, parce que c'est de ça qu'il s'agit, là, d'user ta passion pour cette pâtisserie-là, ces gâteries-là?
Bien, moi, dans ma vie, dans toute chose que j'ai fait dans ma vie, je me suis toujours dit, je vais me battre jusqu'au bout. Et j'ai toujours été le même dans tout. Même mon couple, que ma dizaine d'années avec un gars dans les années 80, j'ai dit, je vais aller jusqu'au bout. Puis si ça marche pas, ben OK, ça va être ça le résultat. Mais au moins, j'aurai cette satisfaction d'avoir été jusqu'au bout de la chose avant de lâcher prise. C'est un peu ça qui arrive avec la boutique présentement. Je vais aller jusqu'au bout. Donc, cette année, j'ai décidé de miser sur mon réseau, de parler avec des gens que je connais, de leur dire, OK, je suis disponible pour faire du traiteur de plateau de tournage. Ça a commencé. Depuis le début de l'été, j'ai vu que nos boîtes à lunch fonctionnaient bien, fait qu'on est allé plus loin. Il y a eu des erreurs de parcours qui sont faites parce que des fois, tu n'as pas toute l'équipe pour te backer au niveau des employés. Mais...
Qu'est-ce qu'il faudrait pour vraiment lancer l'affaire?
Ben, tu sais, comme je disais tantôt, je suis une nobody. Fait que c'est sûr que moi, j'ai pas eu de critique, j'ai pas eu personne qui est venu à la boutique.
C'est ben, pas j'imagine... une chef qui passe à la télé, là. Bon,
non,
c'est ça.
Non, c'est ça. Et j'ai pas fait mes écoles. Je suis pas allée, je suis pas de l'ITHQ, je suis pas de. J'ai appris sur le tas par grand-maman, par ma mère, par mon père qui me. Tu sais, les recettes, je veux dire, je peux parler de Margot Olivier comme je peux parler de, du livre de recettes de Five Rose qui a fait partie des familles, du livre de recettes de voyons. Le Rossecard aussi, oh, ouais, Jeanne Benoît, ouais, oui. Ça, je veux ouais. dire. Tous ces gens-là qui ont marqué le Québec par leurs recettes. C'est là-dessus que j'ai appris. Puis c'est seulement depuis une dizaine d'années, à peu près, à chaque fois que j'allais faire des voyages, j'allais deux fois à New York, des blocs de 10 jours. Puis j'allais prendre des cours au New York Culinary Institute, des cours intensifs, genre une semaine à faire juste des gâteaux du matin au soir, là, tous les types de gâteaux. Ça vient renforcer mon savoir parce que, en fait, quand on regarde quelqu'un qui a fait l'ITHQ, il y a tous les outils pour fonctionner. Il y a toutes les techniques. Moi, j'ai peut-être pas nécessairement les techniques ou les outils, mais j'ai appris sur le tas. Donc, c'est encore une question d'erreur-essai, et j'en ai scrappé les recettes. Puis, c'est comme ça que j'ai appris mes trucs. Je dis, ma première crème au beurre, je l'ai jetée parce que je pensais qu'elle était plus bonne, alors que si j'avais laissé tourner le malaxeur, ça serait correct, tu sais. Ma ganache au chocolat, c'était la même affaire. Le principe de mettre le beurre, les températures et tout, c'est de la chimie. Donc, des fois, il y a des trucs que je sais, puis je peux aussi bien arriver à quelqu'un qui a 15 ans d'expérience ou 20 ans en vraie pâtisserie versus moi, que ça fait juste 5 ans. Je peux te dire un commentaire, mais il est basé sur ma petite expérience de cuisine. Mais c'est quand même de la chimie.
Céline Carbonneau et cette boutique qui s'appelle encore une fois Nougat
et Nectarine.
Pourquoi Nougat et Nectarine?
Pour revenir à Michel Blanc, c'est un pseudonyme de compte Twitter. Donc, il y a 8 ans, quand j'ai ouvert mon compte Twitter comme pâtissière, parce qu'on échange par les médias sociaux avec des gens de partout dans le monde, Nougat et Nectarine est né. Je voulais pas parler de gâteau à travers mon Twitter de producteur. Et c'est né par une soirée à 2h du matin. Et je me suis dit, si jamais je fais quelque chose avec ça un jour, ben le nom est cute. C'est aussi simple que ça.
Est-ce que tu t'es fait, en plus de certains clients, des amis à travers l'Internet?
Ouais. Ouais. Je regarde dans mon Instagram présentement. Il y a une dame, Sandy, elle a une ferme d'alpaca au Vermont. Puis ça donne qu'elle va suivre des cours. Je me souviens plus trop à quel endroit avec une dame, ben je l'appelle dame, mais une femme qui s'appelle Gisèle Bullock, qui indirectement a un peu influencé mon début de projet. Elle, c'est la sœur de Sandra Bullock, qui a été producteur à Los Angeles, qui a fait du cinéma et tout, puis que du jour au lendemain ou presque est partie et a fait partie de sa boutique sucrée, sa pâtisserie, qui aujourd'hui n'a plus la boutique sucrée, je crois, mais elle donne des cours. Donc, c'est quand même... Il y a des choses en vie qui se passent.
Est-ce que tu fais d'autres cuisines que la cuisine sucrée? Tu parlais de boîte à lunch, par exemple.
Oui. Bien, le fait que cet été, en fait... Bien, c'est sûr que j'ai plusieurs chapeaux. Quand tu es entrepreneur, tu fais plusieurs choses. Tu n'as pas toujours les moyens d'engager nécessairement quelqu'un tout de suite. Fait que des fois, c'est toi-même qui fais les trucs. Fait que pas mal tout l'été, j'ai cuisiné beaucoup de mes plateaux de tournage. Les boîtes à lunch, on les faisait en équipe à la pâtisserie, les employés ensemble. Mais oui, je fais du salé, mais comment je pourrais dire ça? Ma pâte. Passion sera toujours la pâtisserie, sauf que je dois mettre la main à la pâte pour plein de trucs si je veux que la boutique avance. Donc, en plus de m'occuper des médias sociaux, faire les achats, essayer de gérer l'administration de la boutique, les employés, les menus pour les clients, que ça soit autant sucré que salé, c'est moi qui ai fait. Fait que c'est dénicher des recettes parce que moi, à la base, je suis pas une cuisinière. En fait, je suis une cuisinière maison, mais c'est pas mon métier. Fait que je fais beaucoup de recherches sur... les menus que je vais présenter. On essaie toujours d'être quand même assez santé parce qu'on travaille toutes nos recettes. On fait toutes nos sauces, nos trucs.
Tu contrôles tous les ingrédients.
Oui, donc quand on a des gens qui ont des allergies ou des sans-gluten, bien, des sans-gluten, je sais où aller chercher mon pain. J'ai quand même fait une petite recherche et tout. Mais je suis capable de dire, OK, telle recette, je suis correct pour le sans-gluten. Telle recette, je suis correct pour telle affaire.
Je vais te poser des questions en rafale sur notre société de maintenant, mm-hmm. pour le fun. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu penses de cette nécessité qu'ont les gens de privilégier toute forme de spectacle d'humour? Le Québécois a l'air à consommer de l'humour. Il est insatiable par rapport à ça. Tu l'as vu un peu parce qu'il y a une tendance un peu à le faire avec de l'humour aussi. Là.
C'est toujours de vouloir se surpasser, de se démarquer à travers ce qui se passe.
Ou alors on est bien découragé et on veut rire à tout prix.
Mais on est des grands consommateurs, je pense, d'humour. Mais je regarde tous les autres provinces où il y a du français. Je ne sais pas jusqu'à quel point on entend parler d'humour dans ces provinces.
Pas beaucoup, hein?
Bien, même à Québec, je veux dire, on entend parler, mais je veux dire, c'est plus à Montréal que ça se passe. Et nos artistes, nos humoristes voyagent facilement dans les pays francophones.
Est-ce que le sort de la planète dont on parle beaucoup te préoccupe?
Bien, c'est sûr que ça me touche, mais j'ai des amis qui sont plus fragiles, qui sont très affectés par tout ce qui se passe sur la planète. Mm-hmm. Puis des fois, j'essaye, bien, toujours moi, avec mon grand cœur, de donner une épaule, même si j'en ai à peine une pour moi-même. J'essaie de dire aux gens, il ne faut pas que tu prennes ça au premier degré. Oui, notre planète, ça ne va pas bien. Il y a plein de trucs, tu sais. Il faut juste essayer de faire sa part dans sa société puis d'aider les gens autour de nous. C'est bien beau envoyer de l'argent dans tel pays, si ça, ça. Mais avant d'envoyer de l'argent à l'extérieur du pays, il faut aider nos gens ici. Je donne jamais d'argent aux itinérants ou aux gens de la rue, mais par contre, je suis la première à trimballer des muffins, des pommes, puis à faire un sandwich, parce que je sais que tel gars est toujours à tel coin de la rue. Puis même l'été passé, j'avais fait des trucs, j'ai ramassé des affaires, les gens sont venus me porter des sacs à boutique, puis il y a un gars que j'ai dénommé Charlot, puis je suis allée y porter un sac avec... Puis je savais qu'il venait d'avoir un appartement, il avait besoin d'un truc à chaque matin, mais chaque soir, je passais là. Au coin de Vigée puis Hôtel de Ville, je pense. J'ai demandé, bon, il te manque quoi là, dans ton appartement? As-tu besoin d'un... Fait que là, on a récupéré un grille-pain, Puis en fait, il y a une amie qui est venue me porter un sac. Je trouvais que son sac avait l'air pas mal neuf. Non, elle dit, j'ai des affaires usagées. Elle m'a dit, ça a été plus fort que moi. J'ai acheté des petites choses pour son trousseau. J'ai dit, oui, mais le but aussi, c'est d'utiliser des affaires qu'on a à la maison, qu'on emmagasine dans nos garages, puis qu'à un moment donné, on ne sait plus trop quoi faire avec ça, puis que le monde, des fois, jette ça. C'est d'essayer de réutiliser ce qu'on a.
Pour toi, la charité ou aider les autres, ça se personnalise.
Oui.
Plutôt que des dons anonymes, là.
Oui. Moi, je préfère donner...
As-tu toujours fait ça?
Non. Ben, j'ai toujours aidé. Ben, quand je sortais d'un bar, je donnais de l'argent. Il y a un gars qui me disait à un moment donné, ah, je vais t'amener manger au restaurant. Je donnais un 20. J'imagine qu'à un moment donné, à 2-3 fois par semaine, tu sais. Mais, ouais, non, j'ai toujours. Il y avait, quand j'allais travailler chez Cossette, il y avait le même monsieur à la station de métro, mais je donnais un café ou un muffin. Parce que je voulais pas donner de l'argent, parce que je voulais pas que ça devienne corrompu dans de l'alcool ou de la mauvaise drogue, parce que, bien, des fois, c'est pas de la bonne drogue.
Le milieu de la pub dans lequel tu as évolué quand même pendant plusieurs années est très, très basé sur le paraître. Hein. Le look, c'est bien important. Pour les gens qui y travaillent, mais tout le milieu qui gravite autour aussi. As-tu été dans cette moule-là, toi aussi, d'être très préoccupé par le look?
Oui. J'étais toujours des vêtements de designer, les souliers, les talons hauts, toujours les ongles bien faits, toujours maquillés. Oui. Tout ça, là, la petite productrice, comme on voit dans les films, là, tout sur son 36, puis les derniers morceaux qui venaient de chez Tristan, et ouais. Aujourd'hui, c'est plus ça pantoute.
Ben non, ça semble pas ça, pantoute.
Pas du tout! La seule affaire qui est restée, c'est mon rouge à lèvres. Puis si quelqu'un écoute puis me connaît, va partir à rire, c'est bien elle, son rouge à lèvres, elle va jamais le laisser, tu sais. T'amènerais quoi sur une île déserte?
Du rouge à lèvres?
Et de la musique. De la musique puis un rouge à lèvres.
Alors, va te poser la question, quelle musique?
Bien, de tout. On a tellement de la musique, de tout. Autant des classiques que des jazz, que de la musique québécoise, que... Je veux pas... J'ai toujours un peu, même quand mes employés mettent de la musique à la boutique, vous pouvez mettre n'importe quoi, mais mettez pas le même album de la même personne, puis qu'on entend pendant 2 heures de temps le même style de chanson. C'est quasiment les mêmes notes. C'est le fun quand c'est diversifié. Un peu comme ma vie est diversifiée. De tout.
Qu'est-ce qui te manque à part le succès de la boutique?
Dormir. moins de stress.
Ouais.
Moins de stress.
Le stress pour rejoindre les deux bouts avec ta boutique,
ouais.
Surtout. Hein?
Oh, ouais.
Mais là, tu commences à 4 heures du matin, des choses comme
ça? Cette nuit, ça a été ça parce que hier soir, j'étais un petit peu fatiguée. J'avais des achats à faire pour la boutique, mais j'ai eu une grosse journée d'émotion. Fait que j'ai comme dit, OK, non, à la place, je vais aller me coucher puis je vais commencer plus tôt que... J'avais pas beaucoup à faire ce matin pour préparer les gâteaux que j'apportais sur le plateau de tournage, mais je voulais être reposée puis la tête tranquille. Fait que je suis rentrée à 4h30, je pense, à la boutique.
Comment tu te sens à cette heure-là? T'es vraiment seule au coin de Saint-Laurent, à Sherbrooke, à faire des gâteaux, là?
Oui, je veux dire, ça, c'est rien. J'ai déjà travaillé. Autant que j'ai déjà travaillé jusqu'à 2 heures du matin à faire des gâteaux pendant que tout le monde fait la fête dehors. Autant que je suis déjà rentrée à 3 heures du matin pendant que tout le monde sort des bars. Puis j'étais comme genre, ah, ben oui, c'était moi ça, là, quelques années. Mais, puis que tout le monde est rah, 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 et puis les batailles dans la rue, puis whatever. Mais je rentre dans ma petite boutique, puis je me mets de la musique, puis je travaille dans mes trucs.
Quand t'es triste, qu'est-ce qui cause la tristesse?
L'accumulation de toutes les émotions.
Quelles émotions?
Des émotions qui sont pas toujours appropriées à moi, je pense. Des trucs qui m'arrivent, t'sais, comme je pense à la semaine dernière, j'ai eu un moment où j'ai pas pu payer mes employés la bonne journée. Fait que je les ai payés comme peut-être... Il y en a que ça a été 5 jours plus tard. Puis que là, j'ai mal calculé mes trucs à la banque parce que j'avais le droit de déposer tant, mais je savais pas qu'à cause du nombre de chèques que j'avais déposés, il y en avait qui étaient gelés. Fait que là, il y a un chèque d'une employée qui a comme rebondi, puis la petite fille, elle travaille plus avec moi, puis je suis consciente qu'elle va à l'école. Elle est venue à la boutique chercher son chèque, mais là, elle est venue avec ses deux amis qui m'ont comme rentré dedans comme si j'étais la mauvaise personne, tu sais, comme pas correcte, toute l'équipe. Ça fait tellement mal, là. Fallu que je sorte dehors à un moment donné. Je suis allée pleurer pendant 10 minutes sur la rue Saint-Laurent, pas de manteau, rien, là, comme, mais pleurer, là. Ouais. Ça, c'était pas à moi, mais c'est quand même une situation qui est arrivée.
C'est sûr. Mais c'est beaucoup, beaucoup de tension. Mais tu vas tenir ton bout, toi, encore un bon bout de temps, là.
Je pense que oui.
C'est ton genre,
j'ai appris à me détacher. puis essayer, comme là, oui, j'ai des émotions dans les yeux et tout, là, les larmes, mais j'ai appris à autant que je peux taper des crises, moi aussi, puis péter les plombs, comme on dit. Mais à un moment donné, c'est parce que, tu sais, si tu viens travailler, puis c'est ta job, fais ta job. C'est comme, je suis pas une garderie, moi, là. J'avais voulu avoir des enfants, j'aurais eu des enfants, tu sais. Fait que c'est comme, si tout le monde faisait sa job, j'aurais plus confiance en tout le monde, puis des fois, la business, ça roulerait mieux. Mais quand t'as tout en même temps qui roule en tête, plus le monde qui t'appelle, tu sais, j'ai pas eu de téléphone. Ma mère, elle essayait de me rejoindre hier après-midi, puis ça a donné de même. J'ai pas pris l'appel, mais la première affaire qu'elle a pensé, c'est que ma ligne était coupée, puis j'avais pas payé mon compte. Et c'est ça qui est arrivé une demi-heure après, mais elle savait pas, là. Mais c'est ça qui est arrivé, puis j'ai appelé, puis j'ai tout réglé mes affaires, puis j'ai payé le compte. Mais c'est comme... Je manque de temps, parce que je fais tout seul.
Tes parents n'ont pas d'argent, mais tes parents t'aident.
Oui.
Conte-moi un peu.
Ben, c'est déjà arrivé que mes parents viennent le dimanche à la boutique. Mon père vient laver plancher, un petit peu de ménage. Ma mère vient couper des durant l'été, quand j'ai eu mes traiteurs, il y a des fois où je fournissais pas. Puis, parce que, oui, je peux travailler durant la journée, mais il y a tous les hauts et les bas d'une boutique durant la journée. Fait que c'est moi qui réponds. C'est moi la, c'est moi la bouée de sauvetage qui répond aux problèmes d'un bar, problèmes d'un autre. Quelqu'un qui appelle hier matin, j'avais deux gâteaux à terminer. Mais en même temps, il est rentré une commande de 12 sandwichs puis un autre de 9. Fait qu'on avait comme 21 sandwichs à faire pour deux commandes différentes. Fait que j'ai pas pu finir les gâteaux. Il a fallu que j'aille faire les livraisons. Puis une des places où je livrais, c'était les deux gâteaux que j'aurais pu amener en même temps qu'aller à la même place en après-midi, tu sais. Fait que je suis revenue à la boutique, puis j'étais obligée de finir le gâteau en après-midi, mais finalement, j'ai eu quelqu'un pour aller les porter. Fait que c'est comme plein de petites affaires de même qui fait que si j'ai des choses à faire, j'ai intérêt à ne pas les remettre au lendemain, parce que le lendemain, je ne sais pas c'est quoi le problème qui va arriver.
Quand tes parents s'occupent même de faire ton ménage à ton appartement?
Ouais. Ouais. Des fois, ils font ça.
S'occupe de tes chiens?
Ouais. Ma mère, elle va voir les chiens, elle leur donne la bouffe, elle change d'eau. C'est la seule affaire que j'ai pas changée dans ma vie, c'est les chiens. Puis on m'a déjà dit, ah, tu devrais t'en débarrasser. C'est la dernière affaire qui me reste. Ça, puis mon condo, tu sais. Fait que c'est sûr que je vais pas me débarrasser
des chiens. Ça serait-tu plus facile pour toi si t'étais en couple?
Ben, j'imagine. Parce que quand je regarde les gens qui sont en couple, qui ont une entreprise, ça a l'air, tu sais, t'as quelqu'un avec toi, tu peux parler avec quelqu'un. Là, des fois, je parle plus avec ma mère. C'est pas toujours l'idéal, parce que les parents, ça restera toujours les parents. Ils s'en font pour toi, ils aimeraient tellement que ça fonctionne.
T'as tendance à vouloir les rassurer plutôt qu'à te faire rassurer, là.
Ouais, ouais, mais c'est rarement ça. C'est souvent l'inverse. Ah, tes parents qui t'encadrent, puis plus, c'est pas moi qui les encadre. Moi, j'amène la tristesse des fois. Ma mère, elle peut pas croire tout ce que je travaille. Puis que des fois, j'ai des commentaires plates de mes employés ou des frictions pour rien à la boutique. Tu sais, fait que c'est comme... Les gens n'ont aucune idée c'est quoi être entrepreneur. C'est très, 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 très dur sur le système. Et je suis certaine que si je parlais avec d'autres entrepreneurs, on vit un peu les mêmes choses. Fait qu'on se retrouve, on travaille, on bâtit quelque chose, on perd nos amis, parce qu'on a des amis au cours de notre vie qui sont là à t'encourager dans ton projet, puis quand tu viens pour faire ton projet, tout d'un coup, ils sont plus là. Fait que les gens qui te suivent dans ton projet ne sont pas les gens qui ont vu naître le projet. Fait qu'il y a des choses bizarres.
Il y a une immense solitude vis-à-vis de ça. Solitude affective, mais solitude d'affaires, solitude économique.
Ouais.
T'es beaucoup de seul.
Ouais.
À faire des gâteaux.
Ouais.
C'est bien pour dire, hein?
Ouais.
Tu fais des gâteaux, puis les gens mangent tes gâteaux pour se consoler ou aussi d'avoir des problèmes.
Ben, ce qui est le fun quand tu livres des trucs, c'est ça. C'est le bonheur de... Ce matin, les gâteaux, j'ai livré sur le plateau de tournage. Ce que j'en déduis, c'est que ça devait être... un gâteau qui était sur un comptoir dans le fond de la cuisine, mais qui est devenu un sujet de conversation entre les clients, l'agence et tout le monde. Puis ça a pris une importance X. Puis quand je suis arrivée avec le gâteau, puis je l'ai arrangé, puis tout le monde était content. Next, merci, bonjour. Tout était correct. Fait que c'est comme ce petit bonheur de répondre à une demande, puis que ça cause pas de problème sur les plateaux de tournage. Quand tu amènes un gâteau qui va être devant la caméra, ça fait énormément plaisir. Puis ça fait aussi plaisir quand tu as une cliente qui vient chercher son gâteau, qui commande. Il y a beaucoup de gens qui commandent leur propre gâteau d'anniversaire. C'est toujours surprenant quand les gens appellent. OK, on écrit « Bonne fête qui » sur le gâteau, puis là, ils me disent leur nom. Je dis, ah, c'est pour vous! » Toujours très mignon, puis quand
aussi
ils viennent chercher...
s'occuper de soi-même, hein?
Ils viennent chercher leur gâteau, puis c'est le bonheur quand ils voient leur gâteau, ou... Ouais.
Céline Carbonneau, je te souhaite une vie qui serait comme un beau gros gâteau pour toi.
Merci.
Bonne chance.
Au plaisir. Merci.
À la semaine prochaine. Pour une autre aventure. À la mise en onde, Jean-Sébastien, La Liberté. Bonne semaine.